Chers amis, j'espère que, alors que Noël est juste après-demain, toute cette saison de l'Avent a été pour vous l'occasion où vous avez pu grandir dans la joie de pouvoir célébrer cette fête et de commémorer, même si notre monde a toutes sortes d'autres façons de faire cette fête, de commémorer la naissance de votre Sauveur. Et j'espère et je prie de tout cœur que ce soit la joie et que ce soit la paix qui de façon surnaturelle envahissent votre cœur. Et durant ces jours, malgré peut-être le travail qui a organisé la fête, ce soit d'abord et avant tout cette profonde joie au fond de vous-même qui domine comme sentiment. Et que le Seigneur vous donne la paix de pouvoir mettre de côté ce qui trouble peut-être votre cœur, ce qui trouble peut-être les perspectives de l'avenir. Tout le monde nous annonce que 2013 va être une année glauque, mais que ce soit vraiment la paix du Seigneur qui imprègne votre cœur. Et j'aimerais ce matin aussi que nous lisions ensemble un texte que certainement la plupart des chrétiens dans le monde qui suivent peut-être une forme de liturgie chrétienne vont lire ce matin et qui sera l'objet de leur méditation. Et je vous invite à vous unir avec eux dans la lecture de ce texte et dans la méditation de ce texte. Et ce texte se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 1. Et c'est l'annonce de la naissance de Jésus à Marie. Et le sixième mois, et ici c'est le sixième mois de la grossesse d'Élisabeth qui attend Jean-Baptiste, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi et tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il sera grand. » Il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait la stérile est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Vendredi soir, et hier toute la journée, Isabelle et moi en grande partie, on s'est mis à faire les préparatifs de Noël. Ou plutôt, ce n'était plus vraiment des préparatifs, on est rentré dans la phase de mise en œuvre. On a commencé à cuisiner, on a fait des gâteaux, on reçoit des amis cet après-midi, ce soir on continue un petit peu la cuisine, demain ça continuera et tout ça. Chers amis, on n'est plus dans un temps où simplement on anticipe et on attend. Et on se dit, Noël est dans 15 jours, dans 3 semaines, puis je fais des petites listes simplement pour préparer et tout. Peut-être beaucoup d'entre vous, vous êtes rentrés dans une phase de mise en œuvre. Et si Noël est seulement après-demain, quelque chose a déjà commencé. Quelque chose a déjà commencé et quelque chose ne peut plus s'arrêter. Et c'est effectivement ce qui se passe dans l'évangile de Luc, ici au chapitre 1, lorsque nous commençons à le lire. C'est qu'au moment où l'ange arrive chez Marie, il y a déjà quelque chose d'extrêmement important qui s'est passé. C'est que Jean-Baptiste, lui qui est l'annonciateur de la venue de Jésus sur terre, a été conçu. Et sa mère, Élisabeth, est dans son sixième mois de grossesse. Chers amis, lorsqu'on lit l'évangile de Luc au chapitre 1, nous avons dépassé la phase de la promesse et de l'espérance et on est entré dans la mise en œuvre et la réalisation de toutes les promesses du Seigneur. Et c'est ce qui va arriver ici à Marie. C'est que tout d'un coup, l'histoire qu'elle avait tellement entendue, toutes ces promesses qu'elle avait tellement entendues, toute cette espérance qui formait en fait le fondement de sa foi et de ses prières, allait se réaliser. Et à ce moment-là, il n'y a plus à avoir de retour en arrière. Chers amis, la quatrième bougie ici nous annonce aussi que nous passons d'une période d'espérance et d'attente à une période de réalisation. Et imaginez un petit peu pour une femme qui était dans son vieil âge, je ne parle pas de Marie, je parle d'Élisabeth, de pouvoir croire que cette espérance qui avait dans un sens nourri sa foi toute sa vie, dans son vieil âge, allait se réaliser par elle. Ou que cette jeune fille, fiancée, qui n'avait pas encore connu d'homme, qui n'était même pas mariée, qui était dans une ville qui était méprisée, qui était peut-être parmi les plus humbles d'Israël, dans sa propre vie, cette espérance allait se manifester et se concrétiser. Et il est intéressant de noter que juste à la fin, juste après ce texte que nous avons lu, Marie part pour voir Élisabeth et il s'avère qu'elle est déjà enceinte. Directement après l'annonce de l'ange, Dieu a commencé l'œuvre en elle et elle a conçu l'enfant Jésus. Chers amis, je ne sais pas comment vous attendez le retour du Seigneur, puisqu'en fait l'avant nous aide aussi à nous projeter en avant et à nous dire le Seigneur va revenir et nous sommes dans cette attente. Mais est-ce que vous êtes pris dans une attente où tout simplement vous êtes un petit peu comme dans les quatre siècles qui sont écoulés depuis la dernière fois que le Seigneur avait parlé à un prophète jusqu'au moment où Jésus est né et que tout simplement vous vous dites c'est long, ça sera plus tard. Non, ce n'est pas pour demain. Est-ce que vous êtes comme la plupart des gens sur la surface de cette terre qui ont parlé du 21 décembre en disant « c'est la fin du monde, le calendrier Maya nous le dit », mais où personne n'y croyait vraiment ? Et on faisait tous des projets pour le 22. Quelle surprise pour Élisabeth, quelle surprise pour Marie que ces paroles, que cette promesse qui avait été répétée au cours des siècles, qui s'était enrichie sous la plume des différents ou dans la bouche des différents prophètes, allait un jour devenir réalité dans ce qui semblait être le plus anodin, le plus simple des événements, la naissance d'un enfant dans une famille de Nazareth. Après-demain, ce sera Noël. Vous en êtes sûr ? Vous vous préparez. Dès aujourd'hui, on ne peut plus arrêter le calendrier. Noël sera là avant que vous le sachiez. Quelque chose est en route. Et je vais oser quelque chose pour que ça vous reste dans l'esprit. Si Marie a été la seule à porter l'enfant Jésus, nous sommes tous enceintes de l'œuvre de Dieu en nous. Quelque chose a commencé à Noël. Quelque chose a commencé lorsque nous avons entendu cette parole et que nous l'avons accueillie pour nous-mêmes. Et indépendamment de ce que nous sommes et de ce que nous voulons, Dieu a commencé en nous une œuvre qui est comme la conception de Jésus-Christ. Elle ira à son terme. Et c'est une œuvre magnifique. Et j'en voudrais pour preuve simplement cette parole que l'apôtre Paul dit aux Philippiens lorsqu'il leur écrit dès le début, il leur dit « Je suis persuadé, je suis convaincu que l'œuvre que Dieu a commencée en vous, il la rendra parfaite. » Chers amis, ce matin, j'aimerais que tous ensemble nous soyons et que nous puissions nous dire les uns les autres en nous regardant indépendamment de nos faiblesses que l'œuvre de Dieu qu'il a commencée en vous, rien ne peut l'arrêter. Comme la conception d'un enfant, et il la rendra belle et parfaite comme un nouveau-né. Et c'est ce qui est arrivé à Noël. Et même si nous, nous attendons encore le retour du Seigneur en nous disant c'est des espérances pour plus tard, on essaye de lire les signes des temps, il n'empêche que dès maintenant, quelque chose est à l'œuvre en nous, que nous ne pouvons pas arrêter et que le Seigneur ne veut pas arrêter. Qui est le jaillissement de cette vie, de ce salut, de cette transformation qu'il veut dans la vie de chacun d'entre nous, tel qu'il a voulu par la venue de son Fils Jésus-Christ dans le monde. Le jaillissement des champs, le jaillissement de la lumière dans les ténèbres, le jaillissement de la vérité là où il n'y avait que mensonge. C'est tout cela que le Seigneur souhaite voir dans notre propre vie et qu'il a entamé. La deuxième chose qui me frappe aussi dans ce texte, lorsque Marie est là et qu'elle écoute l'ange, c'est de se dire, oui, Marie était quand même de condition humble. Alors on en a beaucoup fait, on a beaucoup imaginé, soit c'était quelqu'un d'extrêmement bien avec une foi énorme, soit c'était quelqu'un d'extrêmement humble et tout. Il y a beaucoup de spéculations. Mais il n'empêche que simplement par l'attitude de Marie, de par sa jeunesse, on sent tout simplement qu'il y a cette humilité et cette bassesse devant le Seigneur. Ou dans un sens, ni le statut social, ni le péché, ni quoi que ce soit de méprisable aux yeux des hommes, ne peut dans un sens être un obstacle à la grâce du Seigneur envers les hommes. Et c'est là dans la salutation de l'ange à Marie, où il dit, et l'expression française peut nous méprendre, il dit « tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu ». Non, elle n'a pas trouvé, le grec ne dit pas qu'elle a trouvé, ça c'est simplement notre expression française, c'est simplement « tu as été l'objet de la grâce de Dieu ». Rien d'autre n'est dit sur ce que Marie aurait pu être, pu faire. Tout n'est que conjecture ici. Mais le Seigneur a voulu lui faire grâce. Et l'ange arrive et lui dit, tu es l'objet de la grâce de Dieu. On n'en discute pas, c'est une salutation. Je te salue, tu es quelqu'un qui est l'objet de la grâce de Dieu. Et en cela, tu peux être bien heureux. Et c'est pour cela que Dieu va faire une œuvre en toi. Chers amis, j'aimerais aussi aujourd'hui que nous puissions prendre conscience aussi qu'aucune de nos bassesses ne peut nous retenir de la grâce de notre Dieu et de cette même grâce qu'il a fait à Marie de la choisir pour qu'elle porte son Fils pour naître dans le monde. Et il y a cette petite phrase, cette petite question de Marie qui dit mais comment est-ce que ça pourrait se faire ? Et ici, nous n'avons, contrairement à la question de Zacharie, quelques versets plus tôt, non pas un manque de foi, mais dans un sens, tout d'un coup, toutes les raisons possibles et imaginables lui ont probablement traversé l'esprit en lui disant « mais ce n'est pas possible, je ne suis pas marié ». Et nous pouvons tous trouver plein de raisons pour lesquelles nous pensons que ce soit impossible que le Seigneur nous ait fait grâce et qu'il a l'intention de faire une œuvre qui dépasse notre imagination, nous dit l'apôtre Jean. Qui suis-je, moi ? Il y avait quand même des gens beaucoup plus dignes à l'époque que Marie. Il y avait des gens qui étaient de la descendance de David, qui étaient beaucoup mieux placés dans la société qu'elle. Qui était-elle ? Marie. Et vous-même, vous dites peut-être, qui suis-je ? Il y a tellement de gens mieux que moi. Il y a tellement de gens plus capables. C'est ce qu'a dit Moïse lorsque le Seigneur lui a dit, je t'envoie. Il a dit, mais moi je ne sais pas parler. Mais le Seigneur lui a dit, mais va, moi je t'accompagne, je te donnerai mes paroles. Moi je connais plein de gens qui sont mieux que moi. Il n'y a pas une journée qui passe sans que je me dise, t'as quand même failli, t'es quand même pas... Je me déçois moi-même. Ou alors, on fait comme les disciples, et au moment où Jésus dit, vous savez, il est beaucoup plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Vous savez quelle a été la réponse des disciples ? Les disciples, ils ont dit, mais Seigneur, qui alors peut être sauvé ? Seigneur, tu en demandes trop. Tu en demandes trop. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne pourrai jamais. Et le Seigneur y répond, et c'est exactement ce que dit l'ange aussi, il dit ce qui est impossible aux hommes, l'est possible à Dieu. Chers amis, si vous vous trouvez dans une situation où vous avez l'impression que les Écritures vous en demandent absolument trop, que vous n'avez pas les forces de le faire, que vous n'êtes pas dans une situation où vous sentez à même d'être à la hauteur de l'appel que le Seigneur vous adresse, c'est normal. Mais ce qui vous est impossible personnellement est possible à Dieu. Et dans ce texte tout simple de l'Annonciation, de la naissance de Jésus à Marie, il y a cette petite phrase, « Comment est-ce que ça serait possible ?» Et l'ange lui dit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Et je n'entrerai pas dans le détail pour savoir ce qui est possible ou pas possible, ou comment c'est possible par Dieu ou pas par Dieu. Mais nous pouvons saisir une promesse aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, Marie pouvait être la mère du Fils de Dieu, sans connaître un homme. Parce que ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible à elle, est possible à Dieu. Et ça, c'est la promesse que le Seigneur nous fait à Noël. C'est que ce qui a été complètement impossible, et lorsque j'ai prêché là-dessus, il y a quelques semaines en arrière, sur ce qui a complètement changé avec Noël, eh bien, c'est des choses qui sont impossibles à Dieu, impossibles aux hommes, mais qui sont entièrement impossibles à Dieu. Un autre petit détail qui est intéressant aussi ici, qui nous trouve un parallèle avec nous aussi, c'est que lorsque Marie lui dit « Comment ça se fera ?», l'ange lui dit « Le Saint-Esprit viendra et te couvrira. » Quelle que soit cette expression, en tous les cas, c'était par le Saint-Esprit et l'œuvre du Saint-Esprit que cette vie allait naître en elle et qu'elle allait pouvoir porter le Fils de Dieu. Et là aussi, ce qui est impossible aux hommes de par leur propre force est possible par Dieu, par le Saint-Esprit qu'il nous a donné et qui est une puissance en nous, nous a-t-il dit, par lequel il fait son œuvre. Et cette œuvre, elle a certainement, probablement trois facettes principales. La première, c'est de pouvoir nous transformer. Et encore une fois, je reviens, si vous avez l'impression d'être englué dans des choses, c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons être transformés. Et nous avons des textes aussi forts que, où il nous est dit que le Seigneur nous transforme tous de gloire en gloire à l'image de son Fils. C'est par l'Esprit que le Seigneur nous donne la capacité d'être serviteurs les uns des autres et d'exercer nos dons dans une communauté et au bénéfice les uns des autres. C'est en cela que nous sommes aussi le reflet dans le monde, le sel de la terre et la lumière du monde. C'est par le Saint-Esprit qui est en nous que nous pouvons le faire. Or, ce Saint-Esprit nous a été donné à chacun d'entre nous. Il n'y a personne ici qui n'ait cru au Seigneur Jésus-Christ qui n'aurait pas reçu le Saint-Esprit ensuite. Quelque chose a démarré immédiatement. Quelque chose est en marche pour Marie. On pense peut-être que souvent tout démarre avec la naissance de Jésus, mais en fait tout démarre bien plus tôt. Et tout a démarré le jour où Jean-Baptiste a été conçu dans le ventre de sa mère Élisabeth. Il est trop tard pour revenir en arrière. L'œuvre de Dieu est en marche. Et c'est ici où Marie, elle termine avec cette parole, tout simplement, où littéralement il est dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Je ne sais pas si Marie avait eu le choix ou pas le choix. Parce que dans tout ce texte, lorsqu'on le lit, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle écoute, elle pose des questions, mais elle ne peut que recevoir ce que le Seigneur a prévu pour elle. Et je crois que nous aussi, nous devrions être dans cette attitude, non pas nécessairement de dire « je vais négocier avec Dieu, il y a ça que j'aime pas » ou quoi que ce soit. Mais lorsque Dieu vient et nous annonce cette œuvre extraordinaire qu'il veut faire dans notre vie, qui est une œuvre de salut et de transformation, et une œuvre de bénédiction pour d'autres personnes, est-ce que nous avons envie de négocier avec Dieu? Est-ce que nous avons envie de discuter avec lui? Je suis certain que Marie, ça a fait un flash dans sa tête tout de suite. Elle dit, je ne suis pas mariée, je suis foutue. Mais c'est vrai. Je vais être enceinte et je ne suis pas mariée, je suis foutue. Mais la conversation ne s'est pas arrêtée là. Et la grandeur de ce que Dieu voulait faire, la grandeur et la beauté de ce que Dieu voulait faire en elle, par la conception de Jésus-Christ, valait toutes les stigmates, tous les problèmes qu'elle a peut-être rencontrés par la suite. Chers amis, c'est ce que je voulais vous laisser ce matin, en méditant et en lisant ce texte. Comment Marie a été là et a été l'instrument de l'œuvre de Dieu, non seulement pour le monde, mais cette œuvre, c'est une œuvre que le Seigneur a fait en elle. Et que certainement toute sa démarche de foi, tout ce qu'elle a vécu durant les années de ministère, déjà en élevant son fils, mais les années de ministère de son fils aussi, puis ensuite dans l'Église, est née probablement à ce moment-là, où elle a tout simplement dit « qu'il me soit fait, selon ta parole ». Chers amis, Noël, ce n'est pas simplement un souvenir lointain en arrière, ce n'est pas simplement une annonce d'un événement qui viendra on ne sait pas quand, mais il y a quelque chose qui est en marche, non seulement dans ce monde, mais quelque chose qui est en marche dans votre propre vie et dans ma propre vie. En lisant Luc 1, l'histoire est en marche. L'histoire est en marche dans votre propre vie. Et comme dit le psalmiste, l'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Éternel, ta bonté dure éternellement. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Je vous invite à quelques instants de silence. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, la simplicité de cette histoire, mais en même temps sa profondeur. Seigneur, ouvre nos oreilles et ouvre les oreilles de notre cœur afin que nous puissions l'entendre et entendre la parole que tu veux nous adresser aussi. Et Seigneur, nous voulons encore une fois te louer, te remercier pour ce que tu as fait à Noël, Seigneur, pour notre monde, mais ce que tu as fait pour nous aussi en particulier. Par la venue de ton Fils Jésus-Christ. Et Seigneur, cette œuvre belle que tu as commencée à la naissance de Jésus-Christ, nous savons que tu la rendras parfaite au jour de son retour, lorsque tu réconcilieras toutes choses avec toi. Mais Seigneur, nous voulons aussi croire que comme tu as démarré cette œuvre dans la vie de Marie et dans son ventre, Seigneur, tu l'as démarré aussi en nous aujourd'hui. Et Seigneur, je voudrais te demander que tu nous fasses la grâce. Que tu nous fasses la grâce de sentir cette vie qui grandit, qui pousse en nous, et que nous puissions, Seigneur, ôter tout obstacle et avoir cette même attitude de cœur et cette même réponse que Marie, Seigneur, qui dit tout simplement, « Je suis ton servant, que ta volonté soit faite, que tes paroles s'accomplissent en moi. » C'est entre Dieu que notre Église ici puisse être un lieu où nous puissions tous être nourris dans cette foi et cette espérance. Et que nous puissions nous exhorter les uns les autres à nous laisser imprégner, transformer. Et que nous puissions nous encourager à le faire. Merci pour ta parole, Seigneur. Bénis ton Église de par le monde qui lit cette parole et qui la médite. Et Seigneur, que ta bonne nouvelle résonne encore ce matin, nous te prions. Au nom de Jésus, Amen. Nous avons toutes les raisons de célébrer ce matin le repas du Seigneur. Parce que ce qu'il a commencé dans son ministère, lorsqu'il est né, il avait une idée en tête. Je suis venu pour une raison. Cette raison, c'est que cette bonne nouvelle devienne réalité pour tous. C'est-à-dire, je suis venu pour ôter ce péché qui est l'obstacle entre Dieu et les hommes. Je suis venu pour faire jaillir la lumière dans un monde de ténèbres. Je suis venu pour faire jaillir l'espérance là où il n'y avait plus de raison d'espérer. Et le Seigneur est allé jusqu'à la croix. Il est mort. Et par-dessus tout, il est ressuscité. Nous avons un avantage sur Marie, c'est que nous sommes après l'événement de la résurrection. Je voudrais inviter peut-être, est-ce que Philippe et Nelly peut-être voudraient s'avancer et prier en notre nom et distribuer le pain et le vin. Mais ce matin, si c'est votre souhait de vivre de cette vie que le Seigneur a commencée en vous, prenez ce pain et nourrissez-vous. Prenez cette coupe et nourrissez-vous. Parce que ce que le Seigneur a commencé en vous, il le rendra parfait. Je demanderai à Nelly de prier en notre nom pour le pain.
Merci parce que en ces temps de Noël, Seigneur, tu es venu. Vraiment, tu es venu pour faire une œuvre extraordinaire dans nos vies. Tu nous as réconciliés avec le Papa Céleste. Et c'est un cadeau extraordinaire. Et tu nous donnes une promesse, Seigneur, c'est que ce pain et ce vin, très bientôt, avec tous les bien-aimés, nous pourrons le partager avec toi dans l'éternité. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci parce que tu nous as aimés au point où tu as donné ta vie pour chacun de nous. Et que vraiment nous en soyons conscients chaque jour de cet acte extraordinaire. Merci Seigneur Jésus pour tout l'amour que tu as pour nous. Et en retour, nous voulons faire monter vraiment toute notre adoration. Amen.
Je voudrais peut-être inviter Thibaut et Mélanie peut-être à s'approcher et prier en notre nom pour le vin et distribuer le vin. Je demanderai à Mélanie de prier en notre nom.
Et c'est aussi de la tristesse de penser à toutes les souffrances que tu as eues. C'est surtout de la joie quand on voit tout ce que ça nous offre aujourd'hui. On veut te remercier pour ce sacrifice. On veut se remercier parce que, au travers de ce sang, maintenant, il y a possibilité de changement dans nos vies, possibilité de partager nos vies avec toi, d'être en communion avec toi, d'être transformé par toi et pour toi, pour ta gloire. On veut te demander, Seigneur, de travailler encore nos cœurs pour que ce ne soit pas quelque chose comme une tradition, quelque chose qu'on redit, mais qu'on puisse vraiment être touché comme la première fois par ce sang, Seigneur, qui nous donne la vie. Et on veut encore l'accepter aujourd'hui et se laisser transformer par toi. Amen.